Bonjour à toutes et à tous. Bonjour pour m'avoir invité pour parler de cette histoire si tragique et si vivace encore aujourd'hui en 2010, 70 ans après. Alors, pour aller rapidement, parce que tout est confus à cette époque, il y a la drôle de guerre, la guerre éclair, qui dure du 10 mai 1940 au 22 juin 1940. On voit l'exode, les gens partent du nord, vont vers le sud, fuient. Dans cette confusion totale, le 17 juin, le maréchal Pétain demande l'armistice. Le 22 juin, il la signe et elle va être appliquée le 25 juin. Le 18 juin, à des centaines de kilomètres, le général de Gaulle demande aux Français de poursuivre la guerre. Donc le maréchal Pétain demande l'armistice, le général de Gaulle demande de poursuivre la guerre. C'est à quelques jours près, tout se passe en même temps. Et tous ces gens qui fuient. Et au nord de Lyon, il y a des militaires qui décident de résister à l'ennemi. On est donc dans la même période, le 16, 17, 18, 19, 20 juin. Il y a des combats au nord de Lyon, Fleurieux-sur-l'Arbrelle, Chasselet, qui est à 20 km, 25 km de Lyon, vers les quais de Saône, en pleine campagne. Des poches de résistance armées vont essayer de résister à l'ennemi allemand, entre autres les SS, les Totenkopf. Et à ce moment-là, on met les tirailleurs sénégalais au front pour résister aux Allemands. Le combat va durer 2 jours. Mais il est important de voir à quel point tout était confus. Les réseaux de communication ne fonctionnant pas, l'état-major n'a pas toujours su qu'il fallait arrêter les combats. Les Allemands étaient rentrés à Lyon, cours Lafayette, alors que les tirailleurs allaient se battre. Au même moment, Édouard Herriot demandait Lyon, ville ouverte. Voilà. Le mot, c'est la confusion, et c'est dans cette confusion que les combats vont avoir lieu entre des tirailleurs sénégalais et l'armée allemande, plus précisément les Totenkopf, les SS. Alors, c'est des militaires qui étaient liés aux troupes de marine. Ils avaient été constitués au printemps 40, et ils étaient composés de tirailleurs sénégalais qui étaient composés aussi bien de noirs et de blancs, mais les blancs étaient plus à l'encadrement. Et les hommes de couleur noire étaient plus sur le front. Donc, combien ils étaient, je ne connais pas le nombre exact, mais en tous les cas, ils avaient été appelés pour défendre et ralentir l'avancée des Allemands au nord de Lyon. Mais encore une fois, ça, c'était l'optique militaire, puisqu'au même moment, le président de l'Assemblée nationale était à Bordeaux, Édouard Herriot, il était le maire de la ville. Au même moment, lui, il demandait que Lyon soit déclarée ville ouverte pour éviter que les ponts soient démolis, pour éviter que la population civile soit touchée. Donc il y avait déjà des problèmes entre le point de vue stratégique, militaire, qui voulait ralentir l'avancée des Allemands pour que l'armée des Alpes puisse faire son travail, et de l'autre côté, le point de vue et les stratégies politiques qui voulaient, elles, sauver les villes, les populations civiles, et qui demandaient, elles, l'arrêt des combats. Il y a déjà là un nœud qu'il faut bien comprendre pour voir qui sont morts dans des situations où on se demande pourquoi ils sont morts. Pourquoi avoir résisté quand des Allemands étaient déjà rentrés dans la ville ?
Voilà. Et alors, du côté de la hiérarchie militaire, qui a pris la responsabilité de cette position ?
J'ai eu un monsieur qui est allé voir les archives militaires. Il cherche encore la réponse à votre question. Nous, on a fait ce film avec Patrice Robin, qui est le réalisateur. Nous n'avions pas, en 1990, accès aux archives militaires. Donc, on a fait ce film sans le contenu, l'apport des archives militaires. En tant que civil, nous n'avions pas accès. Mais de source sûre, il y avait le général Ollery, mais encore une fois, j'ai pas la réponse à votre question là. Je voulais juste préciser à tous les auditeurs et auditrices que les tirailleurs sénégalais, c'est un terme générique qui en fait englobe des soldats des anciennes colonies françaises venues de pays qui comprennent le Sénégal et d'autres pays comme le Togo, le Mali, voilà. Donc c'était un terme générique. On a repris sénégalais du pays Sénégal, mais en fait, il est constitué d'hommes qui viennent géographiquement d'autres pays que le Sénégal. C'est plus large au niveau de l'enrôlement géographique et géopolitique. Donc ça, c'était déjà pour vous dire ça. Alors, par rapport, il y a eu donc une poche de résistance. Le capitaine Gouzi, qui commandait ses troupes, a décidé de se mettre au château de Montluzin, qui est proche de Chasselet, à 1 ou 2 kilomètres, et de faire comme ça des poches de résistance le 19 et 20 juin. Face à la supériorité de l'ennemi, ils se sont rendus. Le capitaine a été blessé à une jambe et il a demandé aux Allemands qu'est-ce que vous allez faire de mes soldats puisque ils se rendent. Et on a amené les soldats sur la route des Chères, dans le lieu dit Vitsac, et là on a séparé les blancs, 13 tirailleurs blanc, et on a massacré 48 tirailleurs sénégalais noirs, des hommes très 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 jeunes, faut pas oublier de le dire, c'était des hommes qui étaient très très jeunes, et on les a massacrés. Il faut être en deux temps. Le premier temps, c'est que les soldats noirs enrôlés dans l'armée française, les Allemands ne le supportaient pas. Eux-mêmes avaient auraient pu enrôler des soldats noirs dans les pays où ils étaient, en Afrique, ils ne l'ont pas fait. Ils ne supportaient pas. Il y avait eu la Première Guerre mondiale où on avait envoyé des soldats noirs envahir la Roure. Et 14-18, ça n'avait pas passé pour les Allemands et leur état-major. Et avec ça, on avait quand même distribué des tracts de propagande anti-noire au-dessus de l'Allemagne, où on disait tout le mal qu'on pensait du noir et de la représentation qu'il avait dans l'imaginaire allemand. Donc ces soldats incorporés dans l'armée allemande, entre autres les SS, qui, comme vous le dites, étaient encore plus ailés, avaient tout ça, avaient tout ce ressenti négatif, fait aussi de haine. Et ils exultaient cette représentation négative par une violence extrême qui s'est concrétisée dans toute la France autour du 20 juin 40, de la même façon au nord de la France, à l'est de la France, dans d'autres endroits à Chartres. De la même façon, on éprouvait un sentiment de rejet vis-à-vis de ces hommes, uniquement à cause de la couleur de leur peau et absolument pas à cause de leur statut de soldat et de toutes les capacités qui peuvent être attachées à la fonction du soldat. On mettait en avant d'abord leur couleur et au titre de ce critère discriminant, on ne respectait pas les lois du code de guerre. C'est donc un crime de guerre qui a été commis à cause de la discrimination sur ces hommes. Donc dans le film, il y a un survivant qui maintenant nous a quittés. Et d'ailleurs, ce monsieur, j'ai une pensée pour lui, il s'est jamais remis de cette histoire. Il a été témoin de ce massacre. Ils ont donc été amenés dans un camp. Et puis après, ils ont été traités comme des prisonniers de guerre. On n'est pas allé plus au-delà de son avenir. Ils ont été traités comme des soldats arrêtés. Bon, voilà. Pour ce qui concerne les Blancs, ils n'ont pas été tués. Voilà. Puisque nous, on l'a rencontré. Donc, pour ce qui est de l'histoire à Chasselet, ce qui s'est passé dans le film, on a un témoin qui le dit. Le maire pensait qu'une dame qui a sauvé des soldats, qui a essayé d'en sauver et qui est arrivée pour quelques-uns, a été attaquée par le maire qui disait qu'elle allait faire tuer tout le village. Donc ça, c'était au moment de l'événement. Les gens avaient un sentiment de peur qu'on peut quand même comprendre. Voilà. Donc, par rapport à votre question, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a des hommes qui sont allés enterrer ces soldats, qui ont essayé de leur donner une sépulture digne, etc. Et après, la mémoire, comment elle s'est perpétuée, eh ben, c'est ce qu'a essayé de faire le film, d'aller à la rencontre de personnes qui avaient des bribes des événements qui s'étaient passés, qui pouvaient le dire, qui pouvaient le raconter, qui étaient fiables, parce que l'histoire, c'est pas... On doit servir l'histoire, on ne doit pas se servir de l'histoire.
Oui, je vais poser une petite question par rapport aux personnages que vous avez filmés, enfin, qui ont eu des bribes pour des souvenirs, en fait. Et quelle caution morale vous donniez à ces personnes que vous avez filmées?
Alors, une précision d'ordre professionnel. Je suis l'auteur et la productrice. Donc, j'ai travaillé à la recherche historique de ce qui s'est passé avec le réalisateur Patrice Robin. Mais au niveau du filmage, au sens précis du terme, c'est-à-dire tournage devant la caméra, c'est le champ de compétence du réalisateur. Donc, moi, je peux vous répondre quand même parce que j'ai eu un rôle actif. Parce qu'en fait, il a fallu, dans votre question, il faut savoir qu'il a fallu trouver les personnes. Donc, pour trouver des personnes, il a fallu rencontrer énormément de personnes qui disaient savoir quelque chose, avoir une photo, avoir entendu par leurs parents. Enfin, vous voyez, tout un travail de sélection. Mais pour arriver à sélectionner des personnages, il faut en rencontrer beaucoup. Donc, déjà, c'est... Donc, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un travail scientifique, puisqu'il n'y a pas de livre avant le film. Vous devez croiser. C'est-à-dire que vous devez croiser les informations qui viennent de cette personne.
Oui, les recouper.
Voilà. Pour crédibiliser et apporter la garantie morale dont vous parlez. Autrement, on pourrait avoir dans le film des personnes qui n'ont rien à dire, qui colportent des informations fausses, et nous, on voulait servir l'histoire et ces hommes qui étaient morts, et on ne voulait pas servir les racontards du bar d'à côté. Voilà.
Oui, ben, le film, quand même, il date depuis 1992. Alors, le film date depuis 1992. Est-ce que vous avez les résultats escomptés, enfin, l'objectif, le but du film à l'époque, et est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment que vous avez atteint votre objectif en réalisant le film?
Vous... Bon, ce qui est de bizarre dans votre question, c'est que moi, je suis déjà un objet d'histoire. Ça me met un peu mal à l'aise, mais c'est la vérité, puisque déjà le film a été... le travail a démarré il y a 20 ans. Donc déjà nous-mêmes, je dois déjà moi aussi faire un pas en arrière de 20 ans. Donc il y a des personnes qui voient le film qui n'étaient pas nées. Donc déjà nous-mêmes, on est dans la reconstitution historique. Donc je vais déjà essayer d'être sincère par rapport à ce que je ressentais il y a 20 ans. Déjà moi aussi je suis dans un travail de mémoire, donc je vais essayer de vous répondre le plus simplement et le plus proche de la réalité d'il y a 20 ans, si on a l'impression d'avoir atteint. Alors le but du film, c'était pour moi, en ce qui me concerne, un énorme sentiment d'injustice, c'est-à-dire que de savoir que des hommes qui étaient morts pour la France, dans une confusion historique que j'ai un petit peu relatée brièvement, quel était le sens donné à leur combat, quel était le sens donné à cette résistance. Donc déjà on sent une confusion, à quoi a servi leur combat, à quoi a servi leur mort. Donc déjà il y avait ça, cette interrogation. Et la deuxième, c'était, ils sont morts une fois, on ne peut pas les laisser mourir deux fois dans nos mémoires. Et avec le réalisateur, on a eu l'insolence de vouloir faire en sorte qu'ils ne meurent pas pour rien, et que de vouloir faire faire revivre le pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, c'était en quelque sorte qu'ils ne soient pas morts pour rien. Donc dans ce sens-là, une fois que le film a été fini, On a voulu travailler pour leur mémoire, donner la place qu'ils avaient dans l'histoire de France. Dans ce sens-là, nos objectifs étaient complètement atteints, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de moyens et qu'on est arrivé à les surmonter. Donc, pour vous répondre, je ne sais pas si j'ai répondu, déjà l'objectif premier était atteint.
Est-ce que le film est connu de l'opinion publique, du grand public ?
Alors, si le film est connu, c'est effectivement quand on fait un film, quelle que soit la forme, le film, un livre, on ne le fait pas pour soi, vu qu'on ne nous a rien demandé, qu'on n'a pas été payé, donc on l'a fait pour être un passage, pour échanger avec les autres sur des valeurs. Donc, moi, je m'étais contentée de croire que les structures dont c'était les métiers, entre autres les réseaux télévisuels, allaient prendre le relais et allaient montrer ce film au public dont vous parlez. Et c'est là qu'il y a eu un problème, c'est que ça ne s'est pas produit. Donc, à ce niveau-là, l'objectif n'a pas été atteint parce qu'on pensait qu'ils allaient être les relais. C'est à la suite de la chaîne de refus que j'ai créé une association avec un petit noyau de personnes bénévoles et qu'on organise de la télébrouette.
Voilà, par exemple.
Alors la télébrouette, c'est un concept...
Ou nomade.
La télébrouette, c'est un concept que j'ai inventé. Ça consiste à avoir une télé virtuelle, une brouette virtuelle, et dedans, on met le film réel, qui est le film Le Tata. Et là, c'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur, parce que le public réagit à la projection du film, le public s'approprie l'œuvre, qu'il aime partiellement, moins bien, et on en est aux discussions, aux échanges, et ça c'est carrément essentiel dans nos sociétés actuelles, que tout le monde puisse parler. Jean Moulin, dans son journal Mon Combat de mémoire, a relaté ce qui lui est arrivé exactement à la même époque, en juin 40, à Chartres, où il était préfet de France.
Jeune préfet.
Le plus jeune, je crois, de France.
Voilà.
Vous pourrez vérifier, mais je crois le plus jeune. Mais c'est pas là que... Bon, donc son histoire, l'armée allemande, les SS, les Totemkopf, lui demandent de signer des papiers en tant que préfet, comme quoi les tirailleurs sénégalais, aux abords de la ville de Chartres, ont commis des exactions sur la population civile. Et le préfet Jean Moulin sait que c'est pas vrai, et on est toujours dans cette propagande anti-soldat noir. Il sait que c'est pas vrai et il refuse donc officiellement en tant que préfet de signer ces documents qui attestent que les soldats, les tirailleurs sénégalais, auraient commis des violences sur la population civile. On l'enferme et on lui dit, puisque tu les défends tant, reste avec eux. Et donc il se retrouve dans une cellule enfermée avec des tirailleurs sénégalais. C'est son premier acte de résistance en juin 1940. De là, il va se trancher la gorge. Et c'est comme ça qu'on le voit depuis sur toutes les photos avec son écharpe. Les soldats noirs, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont subi quelque chose, certains, de très dur. À la fin de la guerre, ils sont allés à Marseille et ils ont demandé leur solde. Et on leur a dit, votre argent, vous le trouverez à Dakar, à côté de Dakar, à Thiaroy. Et ils ont embarqué et ils sont arrivés donc à Thiaroy. Et là, après avoir combattu avec bravoure contre l'ennemi dans des conditions qui sont celles de la guerre, ils ont demandé leur solde à Thiaroy. Et là, on leur a tiré dessus. Les commandements français ont tiré contre ces soldats qui s'étaient battus pour la France.
Qui étaient leurs subordonnés. Ils ont donné l'ordre de tirer sur leurs propres hommes.
Alors que pour ces soldats qui avaient vécu tant de choses pendant la guerre, ils étaient frères. C'était des frères d'armes. Et ils ont senti beaucoup de sentiments. Moi, je ne suis pas à leur place, mais en tous les cas, c'est ce qui a fait que beaucoup de pays indépendants ont eu à leur tête d'anciens tirailleurs sénégalais. Parce que quand vous avez combattu, quand vous avez donné beaucoup de vous quand vous avez eu la dignité de vous battre et de supporter beaucoup de choses, vous vous doutez qu'ensuite vous voulez revendiquer un statut qui est différent de celui que vous aviez avant de vous être battu.